Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Revenons à Grégory Assad. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Bah justement, toi, c'était quoi le métier de tes rêves quand t'étais enfant? Est-ce que t'as toujours voulu devenir designer de mode?
Oui. En fait, bizarrement, oui. Quand j'étais petit, j'ai toujours voulu faire ce métier. Alors évidemment, au départ, j'avais pas forcément le vocabulaire qui allait avec et j'avais pas forcément les mots pour pouvoir l'expliquer. Mais c'est vrai que j'ai toujours en fait nourri en fait une envie prématurée en fait pour ce métier. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'anecdotes qui peuvent le justifier et c'est ce qui me fait me rendre compte aussi que ça a toujours été ça.
Tu jouais à la poupée, t'habillais ta mère,
oui,
comme tous les stylistes.
Non, mais je faisais des caprices en fait pour avoir des poupées. À chaque fois que ma mère allait faire les courses, c'était dans un rayon à part, et à chaque fois fallait que je reparte avec une poupée. Mais c'était vraiment en fait pour les. Enfin, c'était même pas pour jouer à la poupée en soi, mais c'était en fait pour l'habiller. J'enlevais tout ce qu'elle avait, je lui mettais d'autres trucs que je trouvais ailleurs et tout. Et en soi, je faisais vraiment des caprices. Genre, je pouvais en avoir une et tout. Et c'est vrai que quand j'étais en fait à la maternelle. Genre, j'ai une anecdote qui est trop drôle. En fait, j'avais une maîtresse d'école et tout, qui mettait que des talons, enfin, que des chaussures plates. Et moi, en fait, c'est ce qui m'obsédait, c'était les talons. J'adorais voir les femmes et tout avec des talons très hauts, genre très élégants. Donc déjà avec cette envie de glamour.
Déjà en maternelle.
Non, mais en maternelle. Et en fait, je me dis, mais avec le recul, enfin,
elle venait de classe,
bizarre,
quoi.
En fait. Parce qu'à cet âge-là, on s'en fiche. Enfin, la maîtresse, bon voilà. Est-ce que c'est soit elle est sévère, soit elle est cool. Mais je veux dire. Et en fait, je me disais, mais j'ai trop envie qu'elle porte des talons hauts et tout. Alors bon, faut savoir que c'est une dame d'un certain âge et tout ça, mais après moi, je me focalisais pas trop sur ça à l'époque. Et genre, je crois qu'elle avait une réunion avec ma mère, mais qui était sur un autre sujet, et après, je lui ai dit, mais en fait, j'aimerais vraiment, vous voir avec des talons, et je crois que ma mère, en fait, m'embêtait tellement avec ça qu'elle lui a dit, mais en fait, Grégory, j'en peux plus avec lui, il est obsédé par ça, et il porte des talons et tout. Et finalement, elle en a porté un jour, mais en fait,
juste
c'est des talons bas.
Ok.
Et à l'époque,
The Hidden Hills. Scandale.
À l'époque, j'aimais pas ça et tout, c'était des talons très très bas, mais après, je me suis dit, mais avec le recul, c'était une dame de certain âge, donc elle pouvait pas faire plus. Mais le fait qu'elle ait genre accepté et qu'elle ait genre relevé le défi et tout, c'était trop drôle, mais moi j'ai trouvé ça, je me suis trouvé genre impertinent en fait, des années après, et drôle. Même à 2 ans, par exemple, ma mère m'a dit qu'à 2 ans, en fait, j'ai choisi sa robe de mariée. Je dis, mais en fait, tu me racontes quoi là? Elle me dit, oui, en fait, elle a essayé plusieurs robes, et puis après, moi, j'ai touché une, et c'est ce qu'elle a mis, tout ça, mais genre vraiment des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'adorais les robes de mariée, bon, jusqu'à maintenant, mais je veux dire, j'adorais vraiment cette forme.
Le volume,
c'est tout, et à chaque fois que j'allais à un mariage, en fait, je redessinais la robe de la mariée, genre, mais des jours et des mois après. Enfin, j'adorais dessiner aussi quand j'étais plus petit, bon, jusqu'à maintenant, mais c'est un autre type de dessin. Et c'est vrai que j'adorais dessiner des choses avec des falbalas, des volumes. Et puis bon, avec le recul, je me dis, mais en fait, ça ressemble pas du tout à quelque chose. Mais à l'époque, en fait, ça nourrissait déjà vraiment cette envie-là. Et je me dis, j'ai jamais laissé place au doute. Et le doute ne s'est jamais réellement installé pour me dire, en fait, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, en fait? Non. Et c'est plutôt cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, hésitent et changent des fois plusieurs fois de cursus et n'arrivent pas à se trouver rapidement. Et ça, c'est tout à fait naturel. Mais je n'ai pas eu ce problème. En fait, dès le départ, en fait, c'était clair. Il fallait juste que je chemine en faisant ce qu'il fallait pour arriver à ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, quoi.
Justement, depuis la Martinique, est-ce que c'était un parcours et un désir professionnel qui était bien accueilli par ta famille? Et est-ce que tu as suivi un chemin scolaire, un parcours scolaire?
Alors, c'est vrai que ma famille, heureusement pour moi d'ailleurs, et c'est une chance, m'a toujours en fait soutenu et jusqu'à aujourd'hui, et je suis vraiment content et reconnaissant en fait d'avoir un environnement qui est assez sain, bienveillant et qui me soutient depuis le début, donc que ça soit ma famille ou des amis très très proches. Et donc c'est vrai que j'ai toujours eu ce soutien, surtout que bon, moi j'étais beaucoup avec ma mère quand j'étais petit, donc c'est vrai que j'étais constamment avec une belle femme, très coquette et tout ça, donc ça m'a aussi donné en fait, je pense, cette envie-là.
Est-ce que tu l'as forcé à porter des talons?
Forcé, non, parce qu'en fait ma mère elle aime beaucoup s'habiller et tout ça, donc non, hein, mais c'est vrai que contrairement en fait à mon père qui lui était vraiment un sportif aguerri, je pense que vraiment c'était quelqu'un qui rêvait d'avoir un fils qui soit genre footballeur, je pense, alors que c'est tout le contraire de ce que j'aime, mais bon, je respecte et voilà, mais c'est vrai qu'on me dit souvent que je tiens ça de ma grand-mère, donc défunte côté paternel, que j'ai pas du tout connu malheureusement parce qu'elle est décédée d'un cancer très tôt, mais qui était une femme de goût en fait, qui s'entendait avec tout le monde, qui avait le sens du commerce, qui était très belle, mais qui avait vraiment en fait ce chic naturel et tout ça, et que vraiment que tout le monde connaissait en fait dans la ville. Et je me dis vraiment c'est trop dommage que j'ai vraiment pas besoin de le connaître, mais je pense que de là où elle est, elle voit tout ce qui se passe et qu'elle doit être genre vraiment contente. Et voilà, donc en fait oui, non, vraiment j'ai vraiment toujours été soutenu par ma famille, et je pense que vraiment c'est une force. Et c'est une chance, parce que vraiment, je me dis que même aujourd'hui, malheureusement, en fait, dans certaines familles, je pense que certains parents n'accepteraient peut-être pas que leur enfant fasse ce métier sous prétexte que ça soit un métier où on a l'impression qu'il n'y a pas de suite ou qui n'est pas assez valorisant, à contrario d'être, par exemple, médecin ou autre, alors que bon, non. Enfin, je veux dire, travailler dans la mode, déjà, la mode, c'est un métier qui est vaste. Il y a les métiers de la mode, c'est énorme, en fait. Mais je veux dire que, par exemple, être designer et être avocat ou quoi, enfin, je veux dire, c'est pas la même chose, mais le métier, il est aussi valorisant. Enfin, je veux dire, dès que vous aimez quelque chose et dès que vous sentez que vous faites du bien et que vous recevez aussi des good vibes, enfin, je veux dire, c'est un métier qui est valorisant, évidemment, autant qu'un autre.
Et justement, est-ce que ton sentier te semblait tout tracé? T'as fait quoi comme étude pour ça? Et justement, il y a All Around Gate qui demande dans le chat quelles études t'as faites et comment était ta formation.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, au lycée, j'ai pas réellement pu... Enfin, si, j'ai pu choisir quand même, parce qu'en fait, j'ai fait une filière qui était sciences et technologies du design et des arts appliqués. Donc, on n'a pas fait de mode, mais il y a eu beaucoup, en fait, de... on a fait beaucoup, en fait, d'architecture. On a vu beaucoup, en fait, tout ce qui était design d'espace, design d'objets. Donc, à apprendre aussi les artistes, un peu cette culture en fait de l'art qui aujourd'hui en fait me sert beaucoup, parce qu'il faut pas oublier que quand on est designer de mode, en fait on interagit en fait dans un espace, c'est-à-dire qu'on prend place dans un espace, dans un contexte, donc l'espace en fait en soi est important. Donc finalement à l'époque je me disais mais en fait j'ai pas besoin de ça et tout, mais en fait si. Et quoi qu'il en soit, l'art m'intéresse en général et ça m'aide aussi par rapport à l'inspiration et à générer en fait une force de proposition. Donc ça, c'était pour la partie lycée. Donc par contre, mon projet de fin d'année au lycée, je pouvais le choisir sur la mode. Donc, j'ai préparé une collection qui était sur l'hybridation, je me rappelle au début.
Dès le lycée?
Ouais.
Ok.
Et qui reprenait, en fait, ces tons-là.
Je vous montre un petit peu dans le chat. Donc, là, je sais pas si vous comprenez où est-ce qu'on est, mais sur la table, Grégory nous a ramené une robe. Donc, ça reprenait un peu ces tons-là. D'accord, ok.
Ouais, donc c'était sur l'hybridation. Et donc par la suite, après l'obtention de ce bac-là, en fait, j'ai fait une année sabbatique, on va dire, en Martinique.
Voilà, là, vous voyez en entier.
Voilà, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Ouais, donc j'ai fait une année sabbatique, en fait, qui était... Parce qu'en fait, c'est pas que je me cherchais, mais... je voulais en fait d'attendre d'être un peu prêt avant d'intégrer une école de mode, on va dire. Et j'ai eu la chance aussi d'être un peu préparé pour pouvoir le faire, parce qu'en fait j'ai travaillé beaucoup en prêt-à-porter haut de gamme là-bas dans une boutique, donc où j'ai pu voir vraiment cette partie commerciale, retail, merchandising et la mise en valeur du produit, comment mettre en œuvre en fait une pièce. Et ça m'a beaucoup aidé finalement, parce que je travaillais là-bas mais en mode exercice, tu vois, en ce sens de pouvoir par la suite pouvoir moi-même, parce que bon, au début on vend forcément nos propres vêtements seuls. Moi je sais que là je suis toujours à une étape où je fais des sur-mesures, j'ai des commandes et finalement je vends mon produit. Et même que ce soit aussi pour la communication sur les réseaux sociaux, en fait, même si on peut avoir une très belle pièce et ne pas, ou un très bel univers et ne pas pouvoir le mettre en avant, en valeur, en fait, ça détruit un peu tout. Et on peut avoir quelque chose qui vaut rien et le mettre en lumière, le rendre séduisant, envoûtant, juste par rapport, en fait, à la façon et à l'angle sous lequel vous allez le présenter.
La mise en scène, le storytelling.
Donc, en fait, cette partie commerciale et boutique m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Puis, évidemment, aussi par rapport au rapport client, les échanges, savoir aussi ce que les gens aiment, leurs envies. Donc c'était une boutique pour femmes, donc j'ai fréquenté beaucoup de femmes aussi à l'époque dans ce domaine là et finalement j'ai eu aussi une formation qui était très couture, atelier, qui était avec un créateur local de Martinique. Donc finalement en fait c'est cette combinaison en fait de deux en fait univers, de deux choses complètement différentes mais finalement qui vont ensemble, parce que bon, en fait un vêtement, mais c'est pour ensuite
être porté.
En tout cas moi c'est ce que je voulais. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup préparé par rapport à l'école, sachant que le designer qui m'a fait un petit peu cette formation au sein de son atelier et de sa maison entre guillemets, en fait avait fait la chambre syndicale à l'époque. Mais c'était vraiment une autre époque, donc si vous voulez, en fait, j'ai vraiment été un peu éduqué avec lui à la dure. Donc c'est-à-dire que moi, en fait, la façon dont on lui a appris à faire les choses, il me les a appris à faire de la même manière. Et donc quand je suis arrivé à l'école, enfin, j'avais vraiment, en fait, c'était tellement, en fait, il m'avait tellement habitué à quelque chose d'hyper sévère, d'hyper, en fait,
rigide.
Donc oui. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais un peu comme ça. Après, je me suis appris en fait à me,
c'est ouf, alors
à me contracter un peu plus et tout. Mais finalement, l'école reste ce qu'elle est, c'est-à-dire que ça reste quelque chose de strict, de rigoureux. Mais évidemment, on était en 2020, 2021, 2019. Enfin, je veux dire, c'était une autre ère déjà, donc c'était plus décontracté, mais le niveau est resté le même. Donc pour répondre à ta question, donc il y a eu ce lycée et puis il y a eu l'IFM par la suite.
Justement, est-ce que c'était le moment de la fusion entre la chambre syndicale et l'IFM et c'est quoi la chambre syndicale concrètement? Est-ce que tu saurais expliquer?
La chambre syndicale, en fait, à la période où j'étais, c'était une école qui était, je sais pas comment c'est maintenant, mais c'était une école qui était très technique. Donc si tu veux, en fait, c'était vraiment, j'ai vraiment appris le béaba de la couture en fait durant 3 années intenses. Donc c'est-à-dire que vraiment la conception du vêtement de A à Z, de techniquement parlant, enfin c'était un bachelor en fait qui était stylisme et modéliste. Donc en fin de compte, on a vu autant la partie style que la partie technique, mais la partie technique était vraiment très prononcée, ouais. Et la formation était axée sur ça. Et d'ailleurs tant mieux, parce que souvent, et en tout cas même moi avant de venir dans cette école, en fait j'avais des envies de faire des choses un peu folles entre guillemets, mais je ne savais pas en fait comment les faire tenir debout et les faire prendre vie à travers un vêtement. Et l'école en soi m'a beaucoup aidé par rapport à ça, à savoir mais comment on fabrique un vêtement, comment est monté un vêtement, comment on le compose, et effectivement ton idée un peu folle du début, ben comment la garder jusqu'au bout tout en ayant quelque chose qui va tenir debout, qui va être confortable et que les gens auront envie de porter, parce que c'est ça aussi. Donc c'est pour ça que moi je me positionne pas que dans de la haute couture ou que du prêt-à-porter, mais je mixe en fait les deux. Et je propose quelque chose que je pourrais qualifier de nouvelle couture, en fait, qui pourra un peu expliquer les deux.
D'accord, c'est hyper passionnant. Il y a une petite question qui vient de surgir de Dana Stings, que tu connais peut-être, Chris.
Ouais, je viens de
comprendre le pseudo. Est-ce qu'il peut nous parler de la mode en Martinique? J'aimerais trop savoir si le style là-bas est très impacté par l'héritage colonial ou s'il y a des inspirations qui viennent d'ailleurs. Quelle est ton icône de mode martiniquaise, par exemple?
Oula.
Ça fait 3 questions. Qu'est-ce que tu penses de la mode en Martinique? Qui serait ton icône de mode martiniquaise? Est-ce que c'est impacté par la...
Alors en fait, donc on commence par laquelle?
Comment est-ce que tu décrirais la mode en Martinique aujourd'hui?
Alors en fait, la mode en Martinique aujourd'hui, c'est une question en fait. Je peux pas en fait avoir une réponse qui soit genre directe et radical, parce qu'en fait il y a beaucoup d'influences qui viennent un peu de partout, et je veux dire que les gens s'habillent par rapport au climat, en fait, déjà parce qu'on a un climat en fait qui est estival en fait toute l'année, et les gens en fait sont friands en fait de nouveautés, de nouvelles tendances et tout ça. Mais en fait quand je retourne à Martinique là-bas, il y a pas, en fait je pense que cette personne qui pose la question en fait a l'impression certainement que quand on retourne là-bas, on a l'impression d'avoir des femmes ou des hommes avec des habits inspiration effectivement coloniale ou quoi, mais pas du tout en fait. C'est-à-dire que le costume effectivement traditionnel féminin et masculin existe. Et il est des fois en fait modernisé par des designers qui sont basés aussi là-bas. Et moi-même aussi, j'aimerais pour la deuxième collection pouvoir moderniser en fait le costume traditionnel, et on le verra prochainement. Mais c'est vrai que les gens ont des styles qui sont mélangés en fait. Mais je pourrais pas vous dire que quand j'arrive en Martinique, eh ben je vois une seule esthétique, enfin une seule.
Une image fixe,
une image
du style
fixe
la Martinique.
Oui, alors moi j'ai mon idéal que je suis en train de façonner à travers Grégory Assad, donc d'avoir du nouveau créole chic version couture non genré, voilà. Donc moi je me fais mon image avec moi, ce que je trouve et ce qui m'inspire, parce que quoi qu'il en soit, les gens m'inspirent en général, parce que je suis souvent inspiré de certaines attitudes, de façons de faire, et même certaines personnes qui des fois comment je dirais en fait ne sont pas enfin, c'est pas des gens qui aiment forcément la mode, ils ne sont pas mode dans leur façon de s'habiller, mais sans le savoir, en fait, ils sont la mode en quelque sorte.
Dans l'attitude,
dans la façon de se vêtir.
La gestuelle.
Il y a une dame que je connais en Martinique qui est une couturière, et j'ai toujours dit en fait que en fait elle Enfin, elle met juste un truc un peu comme ça, pas Rio, qu'elle attache comme ça. On aurait dit juste une jupe qu'elle a mis en robe. Mais en fait, dans sa façon de faire et tout, enfin, dans juste la manière dont c'est mis, mais c'est ça.
L'allure.
J'en sais rien, en fait, et ça inspire, et c'est trop beau. Et donc, du coup, finalement, moi, mon inspiration, je le trouve là, et mon idéal, en fait, de mode, je le trouve là, mais c'est vrai que, après, il y a beaucoup de personnes en Martinique qui sont très chic, il y a beaucoup de femmes qui sont très élégantes, très coquettes, parce qu'il faut pas oublier que les Martiniquaises, elles adorent la mode. Donc, c'est-à-dire que, souvent, par rapport, en fait, à leur profession, elles peuvent pas forcément exhiber une toilette de dingue au quotidien. Parce qu'imaginons, si on prend l'exemple d'une femme qui est, je sais pas, moi, chef de chantier ou une autre qui est médecin ou infirmière, je veux dire, au quotidien, elle peut pas, en fait, faire des looks ou être mode, en fait. Donc, ça peut se voir peut-être sur les lunettes, sous la boucle d'oreille, enfin, j'en sais rien, mais, en tout cas, quand il y a une occasion, un mariage ou même un dîner, quelque chose, en fait, c'est vraiment le Festival de Cannes, parce que les gens aiment bien, en fait, déjà qu'ils peuvent pas le faire au quotidien, dès qu'ils ont une occasion pour le faire, ils le font. Et j'ai beaucoup en fait de clientes aussi là-bas, donc ça c'est assez cool.
Ah, c'est génial, c'est hyper précieux effectivement.
Oui, parce qu'en fait je travaille aussi avec un atelier du coup qui est en Martinique et qui s'occupe vraiment de cette clientèle qui est basée là-bas, donc c'est plus simple.
Attends, un atelier à Paris et en Martinique.
En fait, j'ai pas d'atelier qui m'appartient pour l'instant, mais en fait je travaille avec des façonniers en fait et qui font de la sous-traitance à Paris, donc qui sont des ateliers qui sont sénégalais et parisiens.
D'accord.
Et en Martinique, je travaille avec un atelier qui est composé de femmes adorables qui font un travail merveilleux et qui m'aident en fait et qui me soutiennent évidemment elles aussi et qui font un peu partie de ma famille en fait qui s'occupe en fait de cette clientèle là-bas.
D'accord. Okay.
Mais en fait, pour répondre à cette question, il y a pas réellement cette image-là. Après, moi, je me fais mon image, donc je m'inspire évidemment du costume traditionnel, des choses comme ça, et même des objets qui sont pas forcément de l'ordre de la mode, mais qui vont devenir de la mode, qui vont devenir un accessoire, un objet design. Mais quand j'arrive là-bas, les gens n'ont pas une, enfin, il y a pas de. Tout le monde a un peu sa mode, en fait.
Bien sûr. C'est un peu comme dire le style de la parisienne ou la française, ça n'existe pas. C'est une fiction qu'on invente du regard extérieur, justement. Mais en intérieur, il y a autant de styles de Martiniquais que de personnes martiniquaises.
Puis, faut dire aussi qu'en Martinique, bon, malheureusement, il n'y a pas réellement de boutiques de luxe, mais il y a quand même pas mal de boutiques. Et d'ailleurs, la boutique dans laquelle j'ai travaillé durant mon année sabbatique en tant que vendeur, elle faisait partie de ces boutiques un peu phares en fait qui proposent en fait des choses qui sont quand même un peu plus haut de gamme que ce qu'on pourrait voir ailleurs et qui sont un peu plus sympas. Mais bon, après, les Martiniquais en fait sont des gens qui voyagent énormément, donc s'ils ont envie d'avoir quelque chose, ils savent comment l'avoir ou aller le chercher. Donc en Martinique, il y a des gens en Chanel, en Hermès et qui portent de la haute couture puisque,
et toutes les occasions sont bonnes pour se sursaper.
Oui,
il y a Bunny Prism dans le chat qui dit la mode des Antilles se fait les dimanches à l'église.
Oui, non mais j'allais en parler, c'est trop drôle parce qu'en fait c'est vrai que le dimanche c'est aussi une occasion pour se saper. Parce que des fois, en fait, ici, au tout début, quand je venais d'arriver et tout, je me disais, mais c'est bizarre, parce que des fois, quand t'es plus jeune, en fait, on t'oblige, bon, moi, j'ai toujours aimé ça, donc.
De mettre tes habits du dimanche.
On m'obligeait pas, mais toujours à être très bien habillé et tout ça, et même les femmes et tout ça, le maquillage, tout. Et quand j'arrivais ici et que j'allais à la messe et tout, je me disais, mais c'est bizarre. Bon, déjà, t'as le temps qui est un peu plus froid, donc t'as déjà un changement de contexte, de situation, d'atmosphère. Et en plus de ça, je me disais, mais les gens, en fait, ils s'habillent pas, en fait, c'est normal, quoi, tu vois, comme une tenue que tu pourrais mettre tous
ordinaire,
les jours.
Ouais.
Alors que vraiment, en Martinique, au début, bon, après, les gens mettent ce qu'ils veulent et c'est très bien. C'est pas ce qui compte, évidemment, quand on va à l'église. Mais je veux dire qu'en Martinique, c'est tellement ancré, en fait, c'est pour ça qu'on délimite l'habit du dimanche. Après,
oui, bien sûr.
C'est qu'en Martinique, mais c'est vrai qu'il y a eu ce décalage quand je suis arrivé qui m'a un peu surpris. Et oui, évidemment, et puis aussi pour les enterrements. Je veux dire, les enterrements, il y a beaucoup aussi de dames, de femmes seniors, en fait, qui sont très chics. Et je pense que c'était à ce moment-là, entre enterrements, qu'elles mettent vraiment, et puis mariage, qu'elles mettent vraiment leur plus belle toilette. Et puis ce qui est cool aussi, c'est que en fait, à l'enterrement, bon, c'est du noir et blanc le plus souvent. Donc il y a une uniformité, elles sortent le chapeau, le jupon. Puis il y a toujours le jupon qui dépasse en dentelle de la jupe droite, genre trop chic.
Le drama aussi.
Mais voilà, donc oui. Mais les gens aiment bien s'apprêter pour les occasions.
Ah ouais. Oh, oui, c'est clair. La Toussaint aussi, c'est énorme. Et même l'aéroport, prendre l'avion, c'est une occasion de se sursaper.
Oui, c'est clair.
Et j'adore ça aussi. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques dans le chat? Allez-y, c'est le moment. Et sinon, ma prochaine question. Est-ce que toi, Chris, d'ailleurs, c'est une question pour Grégory?
Moi, je me demandais, est-ce que tu te sens faire partie d'une génération de designers? Que ce soit à Paris ou ailleurs, enfin, parce que voilà, t'as fait des études de mode, donc t'as des camarades, t'as eu des camarades de classe en gros qui, avec qui t'as travaillé, qui t'ont, avec qui t'as tissé des liens, qui sont, qui t'ont aussi porté, mais qui ont aussi, je pense, des inspirations et des styles très différents. Et voilà, enfin, je me demandais, parce qu'on on a toujours cette image du designer solitaire, oui. Mais en fait, t'as appris avec des gens, quoi. Donc je me demandais, toi, comment bah, tu te sentais par rapport à ça?
Oui, alors c'est sûr que je fais partie d'une, on dira new wave en fait, donc d'une nouvelle ère en fait de jeunes designers. Il y en a tout plein et d'ailleurs c'est formidable. Et donc oui, en fait, oui, j'estime que je fais partie d'une génération de designers, une nouvelle génération.
Ok. Okay.
De ce qui va, de ce qui est là en train de se faire, mais qui sera aussi le futur.
Ce qui va être.
Bah justement, en parlant de New Wave, c'est le nom de ta première collection. Quelle transition te trouvais. On dirait que t'as fait exprès. C'est ma question. Ma prochaine question sera sur ta, sur cette collection-là. Justement, petite remarque dans le chat qui me font beaucoup rire. Il y a All Around Gate qui dit petite anecdote, je suis Guadeloupéenne et mes tantes s'invitent à des enterrements pour pouvoir mettre leurs meilleurs outfits.
Ah,
et ça se fait beaucoup. On ne juge pas. Et il y a Dorian Gray.
C'est une occasion pour porter. Généralement, les enterrements, c'est la journée. Alors, ça une occasion de, du jour pour porter
bien sûr, bien sûr. Sinon ça dort dans le placard quoi, c'est dommage.
Grave.
Et il y a Dorian Gray qui dit aussi oui le airport outfit c'est très important, voilà. Ensuite ah oui, et All Around Gate ajoute franchement je ne changerais le folklore de nos îles pour rien au monde.
C'est,
et c'est adorable
et c'est ce qui fait notre force, notre richesse et pour ma part qui m'inspire.
Justement, il y a un vrai syncrétisme de culture. C'est un peu une plaque tournante entre plein d'influences différentes, entre les Amériques, l'Europe continentale. Donc, on va y venir justement. Parle-nous de ta première collection qui est, pour un jeune créateur, souvent ce qu'on dit, qui définit les codes d'une maison. C'était quoi ta première collection? C'était dans quel contexte?
Ah bah alors, en fait, ma première collection, déjà, il faut tout remettre effectivement dans le contexte parce que c'est une collection qui, de base, était censée être une collection de fin d'études. Donc, c'était ma collection de fin d'année. Donc, on replante le décor, on était en pleine période du confinement. Donc c'est une collection qui s'est pré-préparée en fait à l'école avec le corps enseignant et puis est arrivé le confinement qui a fait que ça a fait carrément une explosion complètement brutale qui m'a, je pense, un peu déclenché en fait comme une éclair et tout parce que finalement en fait c'était une école, enfin c'était une collection qui était censée être genre 10 looks je crois au début et puis est arrivée la période du confinement, donc c'est à dire que les profs en fait avaient déjà prévu une nouvelle organisation en fait de Zoom, de process à distance. Oula, quand j'ai vu ça, non, enfin quand on m'a tenu au courant de ça et tout, je me suis dit mais en fait ça m'intéressait pas, mais en soi ça n'avait pas à m'intéresser, il fallait juste que je le fasse parce que c'était les règles. Mais en fait je me suis senti, en fait j'ai senti en fait que de toute façon je pense que cette envie était déjà prématurée dans ma tête, mais je savais pas à quel moment en fait elle allait se concrétiser, cette envie en fait de terminer un cursus, de présenter une collection, parce que finalement en fait vous faites une école, on vous dit qu'au bout de 3 ans vous allez sortir une grande collection et bam, donc c'est à dire que vous rêvez de ça toute votre vie entre guillemets et pendant toutes ces 3 années intenses, et finalement la 3e année on vous dit que bon ben par rapport à un Covid en fait ben il y a moins de looks à faire, et après c'était moins de 10 et tout, mais ça allait pas parce qu'en fait c'était pas en fait histoire de faire beaucoup pour faire plus et toujours plus, pas du tout, parce que beaucoup de gens pensent que c'est comme ça, mais le truc c'est que moi en fait j'arrivais pas à imaginer un look sans un autre, un look pas après celui-là il y a pas celui-là, en fait c'était ça en fait, et évidemment après la vie c'est pas non plus comme ça, mais moi je le voyais comme ça, je me projetais comme ça parce que moi je suis quelqu'un qui il faut que je me projette, et quand je le sens, quand j'ai c'est ce qu'on appelle the feeling, genre il faut vraiment que ça se fasse comme ça, et quand je sens que ça va le faire, ça va le faire, et du coup c'est ce qui s'est passé avec cette collection. Donc en fin de compte il y a plein de looks qui se sont ajoutés par la suite, et je me suis dit mais là on est à une vingtaine, ça c'est même plus une collection de fin d'année, ça c'est un lancement en fait, et cette collection est devenue en fait un lancement, et qui est devenu le lancement de Grégory Assa. Donc du coup on a fait un show digital.
En quelle année, à quelle période?
C'était en 2021, c'était en juin 2021. Et donc du coup ça c'est ce projet a été possible en fait par rapport à tous mes amis proches, ma famille, et parce que c'était un défilé qui était bénévole en fait, parce que
tu t'es auto-financé.
Moi je suis dans mon histoire, dans mon délire, je m'emballe parce que j'adore m'emballer aussi, et puis après je fais les pots cassés, mais c'était vraiment une prise de risque parce que finalement je suis dans mon truc, mais avec quels moyens, comment, enfin voilà, je sortais d'une école, enfin je veux dire c'était ma sortie d'école et tout. Et bon, après, j'ai pu trouver effectivement des personnes, par exemple, pour le lieu, on a fait une collab pour le lieu, donc ça m'a été prêté. Bah, après, il y avait aussi une grosse équipe de make-up artistes, de hairstylists, d'habilleurs. En fait, c'était incroyable avec le recul parce que je me dis, en fait, mais comment j'ai pu monopoliser autant de monde Et faut remettre les choses dans leur contexte. En fait, avant cette collection-là, je veux dire, bon, on me connaissait déjà un petit peu parce que j'avais déjà sorti quand même des petites choses, mais la marque n'était pas encore officiellement lancée, les gens ne me connaissaient pas encore beaucoup. Et finalement, les gens qui sont venus ont eu confiance en mon travail, ont accepté cette collaboration-là parce qu'il n'y a vraiment pas eu, en fait, d'échange d'argent. Mmh. Et finalement, c'est des gens qui sont professionnels. C'est-à-dire que quand je vous dis hairstyle, make-up et tout ça, c'est des gens qui ce sont leurs métiers respectifs, en fait, dans la vraie vie. Et qu'ils ont accepté, en fait, cette collaboration. Et je me dis, mais c'est wow. Et le jour du show, en fait, c'était incroyable parce que l'endroit où j'ai fait le défilé, c'était un grand bâtiment, en fait, qui était de type industriel parce que c'est exactement ce que je voulais, avec des grandes vitres partout. Il y avait plusieurs étages. Et on aurait dit réellement, et c'était à la base, c'est un centre de réinsertion pour les jeunes. Donc, il y avait un gymnase, il y avait une salle, un réfectoire et tout. Mais c'était fait, on aurait dit que c'était fait et prévu pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment genre un floor pour les make-up. Mais un truc, mais dingue, parce que finalement, des fois, je me dis, mais souvent, quand certains designers commencent et tout, ils ont pas forcément, effectivement, le moyen d'avoir ça. Moi non plus, j'avais pas les moyens de les avoir, mais je l'ai quand même eu par rapport, effectivement, à des connaissances, à des amis d'amis et tout. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Et on avait vraiment une organisation, genre, hyper professionnelle, hyper carrée. J'avais aussi des amis, des copines qui s'occupaient de la logistique et qui sont des gens aussi qui font ça dans leur profession. Mais j'étais vraiment hyper bien entouré et je me dis, genre, wow, genre, we did it, quoi.
Justement là en parallèle, pendant que tu parlais, j'étais en train de montrer ton compte Instagram où on voit plusieurs pièces de cette collection. Comment est-ce qu'elle s'appelle, c'était quoi les codes, quelles pièces on trouvait dans cette collection, est-ce que tu peux nous la décrire?
Alors la collection, bah, c'était New Wave, donc Nouvelle Vague, dans laquelle j'évolue en fait. Alors il faut savoir que c'est une collection qui va de l'ombre à la lumière, donc concernant la colorimétrie. Donc c'est une collection qui est au début inspirée en fait des portraits de Malik Sidibé, en fait, qui est un photographe malien. Et donc du coup, dans ces clichés en noir et blanc, on a vraiment en fait ce chic hyper naturel, intemporel, et c'est hyper beau en fait. Et je me suis carrément inspiré de ça pour le début. Et souvent dans ces photographies, on retrouve des mélanges de, dans ces clichés, on retrouve des mélanges d'imprimés, mais qui sont balayés en fait par un filtre noir et blanc. Donc tout est finalement, je veux dire que tout est finalement tout à fait normal et logique, alors que bon, dans cette collection, j'ai mélangé mais etc. de tissus qui n'ont strictement aucun rapport entre eux. C'est-à-dire que j'ai mélangé du madras noir et blanc, donc qui est du coton typiquement de la Martinique, enfin de chez nous, de la Martinique en fait, qui est normalement utilisé pour le costume traditionnel féminin et aussi pour des chemises d'hommes. Donc c'est un tissu normalement qui est dans des couleurs vraiment très vives, donc du jaune, du orange, du vert, du bleu. Et c'est vrai qu'il y en a un qui est proposé noir et blanc. Mmh. Et ça m'a énormément inspiré parce que déjà personnellement, madras noir et blanc, je trouve ça très chic, mais pour toute une vie, ça c'était vraiment un intemporel à avoir, genre un must have.
Ça, on pourrait dire que c'est du madras noir et blanc par exemple.
Par exemple, voilà, qui a été thermo-collé en fait avec un metal sky miroir. En fait, vraiment, j'ai allié vraiment des choses qui étaient complètement, on va dire, opposées. Donc le coton, quelque chose vraiment de tout bête, quoi. Enfin, je veux dire, le madras, c'était pas un tissu d'apparat en fait à la base. Alors que là, on va le mélanger avec un truc qui est limite un peu futuriste, new age, miroir, enfin qui n'a aucun rapport avec. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour moi. Donc c'est ce mix de choses qui sont pas évidentes. Donc le côté métallique je me suis inspiré de John Chamberlain qui est un sculpteur qui fait des sculptures un peu c'est des carrosseries en fait qui sont réformées, qui tiennent debout, et il y en a une qui m'a intéressé en particulier qui était métallique comme ça, silver, et ça m'a beaucoup intéressé pour
Mais il y a un truc qui est très particulier par rapport dans le rapport aux bijoux aussi, dans les Antilles par exemple. Et toi, on trouve beaucoup de métal dans ta collection. Oui. Pourquoi est-ce que c'est un truc qui t'inspire particulièrement?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En fait, c'est-à-dire que, en fait, cette première collection était une première collection, c'était un peu une collection d'intégration. J'avais envie vraiment que les gens commencent à découvrir mon univers, mais en commençant par le début. Donc, j'ai vraiment commencé par des tons, en fait, un peu primaires pour moi. Donc, le noir et blanc, argent, beige, blanc cassé, gold. Donc, c'est-à-dire que quand je dis que la collection va de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire que pendant tout le process de la collection, si on regarde bien, on a vraiment des silhouettes un peu sombres, dans des tons un peu froids au début. Et puis, par la suite, on arrive vers quelque chose de beaucoup plus chaud, beaucoup plus chatoyant, beaucoup plus convivial. Et c'est vrai que le métal est un peu au centre de cette collection là parce que j'ai voulu avoir quelque chose un peu hyper bling, vraiment avoir ce truc. Et puis enfin, je pense que pour moi le métal dans des looks, ça apporte vraiment de la lumière, de la force, de la valeur. On vous voit en fait avec, et c'est une collection aussi qui est très en fait superstar, qui est dégaine. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, Grégory Assad, c'est ça. Donc peu importe la collection, en fait, ça sera toujours en fait cet ADN qui sera très marqué. Mais c'est vrai que bon, en Martinique, on a beaucoup en fait ces gros bijoux en fait créoles, ces gros clips là, ces boucles d'oreilles en or et tout ça. Et c'est vrai que par la suite, dans la partie un peu plus chaude, un peu plus gold de la collection, on est à fond dans cette inspiration là de bijoux un peu ostentatoires, qu'on va retrouver encore plus dans cette deuxième collection et qui seront encore plus mis en avant.
Ah, beaucoup de teasing, comme on va dire. Wow. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi les inspirations pour la prochaine collection?
Vous verrez.
Ok.
Ça sera très chaud, en tout cas, ça sera vraiment hot, parce que bon, c'est une collection été, et j'avais vraiment envie d'en faire une, parce que celle-ci, c'était une pré-fall, et il y avait beaucoup d'hiver à l'intérieur. Mais c'est vrai que bon, peu importe la collection que je ferai, il y aura toujours un mélange d'été et d'hiver.
D'accord. Mmh. Et justement, il y a quelqu'un dans le chat qui disait est-ce que c'est la collection que Loïc Préjean a documentée? Loïc Préjean, petit point de contexte, c'est un journaliste mode, un très grand documentariste qui fait beaucoup de documentaires, du coup, et il a couvert ce défilé. Est-ce que toi, c'est quelqu'un que tu connaissais, Loïc Préjean?
Non, je ne le connaissais pas avant. Alors il est venu en fait un peu un jour avant le show.
Oui.
On peut dire ça comme ça, et donc du coup il a filmé un peu les backstage, donc vraiment toutes ces parties qu'on peut voir à l'écran, et c'était vraiment un jour avant le show, ou deux jours, je me rappelle plus.
Okay.
Mais je le connaissais pas non du tout avant, donc
comment il est entendu en fait, parler de toi?
Oui, il avait entendu parler de moi, et puis on a fait en sorte que bon, il soit là, il a accepté, et c'était vraiment cool de voir qu'il a accepté et que ça puisse se faire comme ça, parce que moi je trouve que le process était cool aussi à montrer, les backstage, et c'était un premier défilé aussi.
C'est vrai que c'est très
pro. De l'exception en fait, d'une collection de fin d'année qui devient un lancement énorme. On a l'impression qu'il y a genre une équipe, une prod, alors que non en fait.
Ouais.
Il y a genre trois personnes à l'atelier qui travaillent pas que pour moi d'ailleurs. Et puis moi, évidemment, je suis encore seul à la direction artistique et à la partie style de la marque pour l'instant.
Pour l'instant, d'accord, ok. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire, oui. On dirait pas du tout que c'est bénévole et que c'est autofinancé.
Non, parce que c'est pas... En fait, voilà. C'est-à-dire que c'est bien de l'expliquer pour que les gens aussi comprennent comment ça peut se faire, ça peut se produire. Mais c'est sûr que moi, l'effet que je veux donner n'est pas un effet de personne qu'on est en train d'aider, qui est dans le besoin, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, et souvent, les personnes voient le compte Instagram, voient la marque, voient la production et se disent, mais wow, genre, en fait, la marque, elle est déjà établie. Mais c'est bon, en fait, il a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous demander? Quand je veux faire des demandes de fonds, demandes de subventions et tout, parce que bon, je suis encore à un stade où je suis à la recherche d'investisseurs, de fonds d'investissement aussi pour pouvoir développer la marque correctement. Et souvent, en fait, limite, on me demande, enfin, limite, je suis pas à ma place, enfin, en gros, alors que si.
Oui, t'es un très bien créateur.
Le truc, c'est qu'en fait, comme en fait, c'est présenté d'une façon tellement luxe et léché et limite parfaite, en tout cas pour moi, voilà quoi.
Ah non, c'est
quand même. Les gens ont une image aussi de ce que c'est que des productions de jeunes designers, et ont déjà une image d'à quoi ça peut ressembler. Le truc un peu pas trop fini du début et tout. Mais moi, en fait, par rapport à la formation que j'ai eue, par rapport aussi à ce que moi j'ai en tête, à ce que j'ai envie de faire de Grégory Assad, en fait, c'est... Mais dès le départ, dès le premier show, il fallait que ça soit clean en fait. Et évidemment, moi, je vois tous les défauts de ce show.
Tu vois quoi comme défaut?
Ah non, mais je vois tous les défauts. Bon, je dirais pas, mais je vois tous les défauts.
C'est bien, je gardais du mystère.
Et je me dis, franchement, ça me sert d'exercice et ça sert à ça aussi. De toute façon, une collection après une autre, elle sera de plus en plus sophistiquée et bien faite. Parce que, ouais.
Oui. Non, mais là, c'est très canon, en tout cas. Justement, un premier défilé, c'est hyper important d'un point de vue image, de marque. C'est le premier signal que tu envoies à toute l'industrie. Toi, qu'est-ce que tu attendais de cette première collection? Est-ce que tu es satisfait du résultat? Est-ce que tu as eu le retentissement que tu voulais?
Alors, c'est vrai qu'un premier défilé, en tout cas, ça a été mon cas. Donc, c'est un premier défilé qui a servi à me faire connaître et à faire connaître la marque, en fait, comme une vitrine vraiment vivante, comme je le disais tout à l'heure, et un peu comme une carte d'identité. Et c'est vrai qu'en fait, c'est, pour moi, ça a été vraiment important et ce défilé a servi déjà au commencement du développement de la marque et puis aux projets futurs qui vont arriver. Et donc,
d'accord, non, c'est ce que tu as eu le retentissement que tu voulais.
Alors en fait, le truc, c'est que j'avais pas d'attente. Alors en fait, moi, je me suis dit, mais ce défilé, en fait, était prévu pour être un défilé, un oral devant un jury, là, comme ça, dans une pièce avec quelques personnes. Finalement, je l'ai présenté au monde entier. Je me dis, mais oh my god, genre, c'était tellement juste qu'en fait, il a juste fallu, pour moi, en fait, j'attendais juste de moi de le faire correctement, de faire quelque chose de maîtrisé, en fait, avec les personnes que j'aime et avec qui j'aime travailler. Donc, en fin de compte, j'avais pas d'attente et finalement, l'attente, c'était de le faire. Donc, évidemment, après, il y a eu, il y a eu des placements, des gens qui ont trop aimé, des gens qui portent, et jusqu'à maintenant, des ventes et tout ça, et c'est génial. Mais c'est vrai qu'au début, moi, j'avais juste envie que ça se fasse et que j'avais envie de voir ma vision, genre, faite. Faut dire que c'était aussi un peu la première fois que je faisais un défilé, qu'il y avait une réelle collection, parce que un peu avant, en fait, j'avais des productions, en fait, qu'on faisait à l'école de projets perso.
Oui.
Donc, en fin de compte, les projets perso, je les prenais toujours très à cœur comme vraiment un défilé, un commencement de défilé, parce qu'on faisait maximum 3 looks ou 4 looks. Et j'avais toujours, en fait, cette envie de vouloir faire une grande collection. Donc, si vous voulez, la qualité dès le début, même à l'école, en fait, des fois, je revenais avec des shoots, avec le truc fait et tout. On me disait, mais waouh, mais mon Dieu, mais d'où ça sort? Et
c'était hyper produit, quoi.
Et en fait, oui.
Star.
Non, mais c'est vrai. Et en fait, je pense que j'ai tellement envie de ça et que c'est tellement, en fait, en moi que naturellement, en fait, ça se fait. Et je trouve, quoi qu'il en soit, le moyen que ça puisse se faire.
D'accord. Il y a Hollow and Jade qui dit dans le chat, j'ai jamais vu une collection de fin d'année comme ça. C'était une claque visuelle quand il a sorti le projet.
Ah, c'est gentil.
Non, mais vraiment, quel défaut, demande-t-elle ensuite.
Oh my god.
On va regarder à la loupe. Okay.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Chris?
Non, mais franchement, c'est sublime. Enfin, en fait, non, mais, enfin, en fait, et moi, je pense beaucoup au rapport entre la mode et la musique en ce moment. Et tu vois, quand je regarde tes collections, je me dis, mais c'est tellement des trucs de clips, enfin, c'est tellement la musique. Enfin, oui. Tu vois, genre, il y a un truc très... et on le sent quand on parle, il y a un truc très... bien sûr, t'es dans la technique, tu vois, parce que t'as appris sur une formation technique avec des gens, tu vois, vraiment très carrés et tout. Mais il y a un truc dans tes vêtements, tu vois, qui dit... En fait, même si vous le portez pas, genre, l'énergie, c'est à vous. Genre, enfin, il y a un truc qui est très, je sais pas, genre, porteur. Et,
c'est ça. Et dans la collection, j'ai vraiment... Non, mais tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et dans la collection, j'ai vraiment voulu aussi mettre en avant, en fait, des morphologies, en fait, différentes. Donc, c'est vrai qu'il y avait des mannequins, bon, plus ou moins des mannequins qui étaient grands, mais il y avait des mannequins qui étaient un peu plus petites, un peu plus rondes, carrément plus size. Parce que c'est vrai que Grégory Hassan, en fait, c'est pour tout le monde, enfin, pour tout le monde, mais surtout à qui ça plaît. Et enfin, je veux dire, peu importe si ça plaît à une fille qui est en 38 et une fille qui est, par exemple, en taille 50, en fait, elle peut le porter si elle a envie, parce que bon, ça sera dispo pour elle et il y aura un sur-mesure qui sera fait. Mais même, quoi qu'il en soit, quand je pourrais, en fait, faire commercialiser réellement la marque et avoir ne serait-ce que des prix retail ou une boutique, peut-être, on verra, mais avoir, en fait, ces tailles, en fait, de dispo et pouvoir, en fait, normaliser, en fait, les tailles. Parce que souvent, dans un show et même dans certaines grandes maisons, on voit souvent dans des défilés des mannequins plus size. Et après, une fois en boutique,
elle est où la pièce?
C'était que pour le style, que voilà. Pour la vitrine,
donc,
que pour
en fait,
faire
genre, on est petit petit. Pas parce que c'est aussi un phénomène de mode, évidemment, mais non. En fait, j'ai évolué, en fait, dans un environnement, donc en Martinique, quand j'étais un peu plus jeune, avec des gens qui avaient des formes généreuses, etc., qui avaient pas forcément des morphologies de mannequins ou hyper filiformes et tout. Donc, en fin de compte, j'ai nourri, en fait, dans ce monde-là, dans ce domaine-là. Donc, finalement, pour moi, c'est tout à fait logique et normal de pouvoir avoir des gens qui ressemblent à des gens qu'on voit tous les jours avec des vêtements exceptionnels, évidemment.
Évidemment. Justement, parle-nous un peu de ton processus créatif. Comment est-ce que tu penses une collection et comment est-ce que tu te fournis aussi en termes de matière, de matériaux?
Oui. Alors en fait, moi, je commence toujours par penser une collection en pensant à l'atmosphère. il faut que je puisse me projeter, en fait. Faut que j'imagine le set, faut que j'imagine l'énergie, les couleurs, la musique, même si j'ai pas encore la musique du final, parce que bon, c'est un enchaînement de sons, mais que j'ai au moins un tempo, un truc, une vibe, en fait, qui me donne, en fait, envie de le faire. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de feeling, en fait. C'est pas mathématique pour moi. Je commence pas par un dessin, ni par voir des tissus et tout, non. Ça commence vraiment par ça, en fait. J'imagine la personne, l'attitude, la fille, le garçon, ou les deux, et les imaginer avec quelle coiffure ils vont être, comment, quelles lunettes, quelle atmosphère, quelle couleur, même au niveau de la photo, comment on va les mettre en image. En fait, c'est vraiment un tout. Mm-hmm. Et je me dis que de plus en plus que je travaille dans ce domaine, en tout cas pour moi et pour ma part, c'est vraiment, c'est toujours une histoire de tout. C'est-à-dire que c'est un ensemble. En fait, je gère pas juste un pantalon, juste une chemise, c'est un ensemble. Je peux pas, en fait, faire un look sans penser aux chaussures. Des fois, les chaussures arrivent avant le reste, des fois, les boucles d'oreilles, des fois, juste la mise en beauté de la personne, la façon dont elle va être mise en valeur. C'est tout ça, en fait, qui va donner vie, en fait, à l'intention. Donc c'est vrai que je m'inspire énormément et essentiellement de ma culture caribéenne de Martinique. Donc c'est-à-dire que je reprends des fois des albums photos vintage ou même de ma famille, ou je fais énormément aussi de recherches approfondies sur des... Comment dire ? Je fais beaucoup de recherches approfondies, en fait, sur cette culture également, et puis d'ailleurs aussi, que je mixe pour pouvoir créer, en fait, des fois ce décalage. Mais c'est vrai que je fais énormément de recherches. Beaucoup, 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 beaucoup. Pour, en fait, tout le temps aussi avoir ces références et ces, aussi avoir cette justification qui va, en fait, appuyer, en fait, le propos d'une collection et pas juste mettre parce que c'est beau et parce que j'aime. Alors oui, évidemment, on n'est pas forcément toujours obligé de se justifier et c'est pas non plus mon cas, mais c'est vrai que des fois, j'aime bien, en fait, avoir des références qui sont miennes, qui vont appuyer, en fait... les collections. Donc c'est vrai que dans celle-ci, on a beaucoup d'influences un peu R&B, old school, surtout sur la partie un peu dorée, comme ça, de ces débardeurs en bord côte, vraiment près du corps avec la grosse chaîne, qu'on appelle les rope chains aux États-Unis. Pareil pour cet ensemble-là, en fait, j'ai été beaucoup inspiré par le clip A Great Joe de Beyoncé.
Oui.
Que j'adore. Et en fait, donc voilà, donc toute cette histoire, ce côté très expansive, quelque chose qu'on sait pas si on peut se l'offrir ou pas, mais qui donne, en fait, envie et qui est séduisant, en fait. Et je pense que c'est ça.
Oui, donc tout est là très cher, justement, mais comment est-ce que tu te fournis d'un point de vue matière, vu que tu es un tout jeune créateur? Est-ce qu'il y a de l'upcycling, par exemple?
Alors, il y a de l'upcycling, donc ici. Donc, voilà. Donc, ce qui est cool avec cette robe, c'est qu'elle a été faite avec du carrelage de salle de bain. Donc, voilà. C'est exceptionnel. Parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas dit, mais c'est aussi le but, hein. J'ai pas voulu que ça ait l'air de ça. Donc, c'est ça aussi l'idée. Donc, en fin de compte, après, tout est dans le choix du carrelage. Parce qu'évidemment, moi, j'ai voulu avoir une espèce de pièce un peu heavy, un truc un peu lourd, clinquant. Genre vraiment la pièce un peu lourde de cette collection. Et puis, le truc très couture, mais finalement, qui se porte tout naturellement.
Tout naturellement, évidemment. Pour aller faire ses courses, par exemple.
En ouvrant ici, tout simplement.
Je sais pas si vous voyez dans le chat le zip qui est juste là.
C'est vrai que j'aime bien penser à des choses un peu fous, mais qui finalement vont se normaliser avec vraiment des détails. De la vie de tous les jours, quoi, des poches.
Là, c'est du vinyle. C'est
Oui, non, c'est pas du vinyle, c'est du sky laqué.
D'accord. Ok.
Noir. Donc vraiment, avec ces détails vraiment sur piqûre, voilà. Mais en fait, là, c'est du carrelage donc vert, inox et aluminium.
Donc attendez, je dézoome un petit peu parce que donc, voilà, c'est du direct. C'est effectivement très lourd. Hein. Je sais pas si vous entendez le bruit.
C'est très lourd, mais
vous.
C'est pas plus lourd qu'une autre robe que des gens portent.
Voilà, donc il y a des petites bretelles en haut, en sky aussi.
En général, oui.
C'est pas plus lourd que des robes de haute couture traditionnelles, ouais.
Non.
D'accord, ok.
Non, et puis en plus là, c'est plutôt pratique parce que bon,
il y a
pas de doublure, on met à peu mettre quelque chose en dessous, une chemise ou un body, peut-être près du corps, etc. Mais non, en fait, j'aime bien, en fait, finalement, avoir des idées un peu folles, si on peut dire ça comme ça, ou des choses un peu moins évidentes, je dirais, et puis finalement de les normaliser.
Oui, en fait la matière est folle, mais finalement la coupe, oui. Elle est assez
et
accessible.
Tienne sur un cintre, faut que ça soit vraiment aussi. Genre qu'on ait l'impression qu'on dans la boutique, on voit ça, clic, on peut l'essayer, pas on le met. That's fine.
Ouais, c'est assez facile à comprendre, tu peux l'enfiler toute seule, t'as pas besoin d'aide quoi. Contrairement à plein de robes que tu as.
Et donc, après pour les fournitures, c'est vrai que moi, je n'ai pas un fournisseur ou une boutique en particulier, je vais partout. Je vais partout, je chine partout, j'achète partout, bas de gamme, haut de gamme, je mélange. Et moi, je trouve que c'est la richesse, en fait, d'une collection. En tout cas, bon, ben, quand on démarre, et c'est aussi mon cas, elle est là en fait. C'est-à-dire que je vais chiner chez des grossistes, chez des tissus de maison, des restes, des... En fait, je vais partout. J'ai pas d'interdit. Je fais des kilomètres. Je trouve des fois des choses vraiment exceptionnelles. Et puis après,
chez Brigorama.
Ouais, ça c'était chez le roi Merlin.
J'aime bien. Petite parenthèse justement dans le chat, les gens disent ah on n'aurait jamais pu deviner parce que depuis tout à l'heure ils essayent de deviner en quoi c'est fait. Des gens avaient dit des petits miroirs.
Oui, et puis en fait le truc c'est que ce qui est aussi intéressant c'est en fait quand on n'a pas de budget, ben c'est là qu'on est aussi le plus créatif évidemment. Ça c'est tout le monde le sait. Je dis en fait moi j'aurais eu en fait peut-être un gros budget, je me serais dit bon il me faut genre une pièce un peu comme ça heavy, peut-être que j'aurais pensé à le faire avec du carrelage, mais peut-être aussi que j'aurais pu me dire ben on le fait en cristal mèche avec un travail de broderie, ouais. Des ateliers Le Sage genre incroyable et ça, et ça serait encore plus beau, mais je veux dire qu'en soi ça c'est le même résultat en fait. Ouais. C'est aussi beau, c'est ben, moi je trouve ça beau en tout cas, et puis c'est ça donne envie, enfin je veux dire c'est voilà.
Bah justement, quelqu'un dans le chat demandait à ce qu'on puisse voir la robe portée. J'ai un de la montre.
Tu l'as normalement sur la campagne de la première collection. Ah, bah là, c'est l'ordre.
Là, c'est
du
dans
show.
Les backstage du show. Je vais vous montrer.
La campagne, c'est quand tu descends.
Dans l'autre sens.
Ouais, par là, descends. Normalement, il y a de l'eau bleue.
D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour finir sur Vogue Runway? Est-ce qu'il faut payer? Là, c'est la campagne, non?
Oui.
Voilà, donc vous voyez la robe autrement ici aussi.
Ouais.
Il y a une autre question dans le chat, c'était quelle star tu rêves d'habiller?
Rihanna.
Évidemment.
Mais après, c'est Super Bowl.
Ah ouais.
En plus. Mais Rihanna, parce que bon, déjà, elle a une signification pour moi qui. Bon, c'est pas, moi, je suis pas en fait groupie de stars, de personnes connues et tout, c'est pas, ça m'intéresse pas. En fait, c'est juste que Rihanna, en fait, c'est une caribéenne. Donc, je veux dire, c'est une sœur, c'est une cousine, en fait, pour moi, en quelque sorte. Et en fait, de l'habiller, ça serait genre vraiment un honneur. Mais c'est pas, en fait, un rêve en mode, je rêve d'habiller des superstars et tout. Oui, c'est cool, et je le fais, et j'habille de toute façon plusieurs types de personnes. Mais c'est sûr que Rihanna, ça serait pour moi une fierté, en fait.
D'accord, ok. Et une star locale dans l'Hexagone?
J'ai habillé Iseult, que j'adore.
Trop beau.
Okay. Ayana Kamura, j'aimerais bien, mais bon, ça c'est l'occasion ne s'est pas encore présentée.
Non, mais t'inquiète,
pas encore,
on va lui parler.
Pas encore.
Aya, j'espère que tu regardes.
Mais oui, Isolde, elle a porté des choses et c'est une personnalité que j'adore et je la trouve très belle. Et ce sont des profils comme ça, en fait, qui font que Grégory Assad existe et c'est ce que je veux mettre en avant, en fait.
Et qu'est-ce que t'espères pour la suite de ta carrière aujourd'hui?
Là en fait pour la suite j'espère en fait le développement le développement en bonne et due forme de la marque, donc ça va se faire en trouvant évidemment un investisseur, un fonds de commerce, peut-être en gagnant un concours de jeunes créateurs.
Là tu participes à des prix comme en Andam ou
Non, pas encore, mais j'ai postulé déjà à plusieurs prix, notamment au Festival de Hier il y a 2 années d'ailleurs précédentes. Et donc, en fait, vraiment, le développement de Grégory Assad, donc normalisation des shows durant le calendrier de la Fashion Week, commencer à commercialiser des points retail, tout ça. Enfin, commencer à faire de ce concept, en fait, une réelle marque qui existe vraiment dans tous les sens du terme. Parce que pour l'instant, elle existe, mais elle est surtout image.
Il y a un autre moyen aussi de faire grandir sa marque, c'est de rejoindre une grande maison patrimoniale. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente?
Oui, c'est quelque chose qui me tente, évidemment. Donc certainement que ça va se faire par la suite, j'espère, parce que c'est aussi ça dans l'idée. Parce que moi, en fait, c'est le métier de directeur artistique, c'est ce métier que j'ai envie de faire. Après, c'est sûr que Grégory Assad, j'ai eu envie de le faire, et finalement, Grégory Assad me permet finalement de me montrer et de montrer ce que je peux faire, de montrer qui est Grégory Assad. Enfin, c'est pas moi qui intéresse, c'est surtout aussi la marque, de quoi ça parle, comment c'est présenté, c'est quoi l'ADN, et évidemment qui est derrière tout ça. Donc évidemment, cette collection et la marque me permet en fait de pouvoir me vendre.
D'accord.
Donc peut-être prochainement dans une maison, oui.
D'accord. Il y a des maisons qui te tentent plus que d'autres?
Je sais pas. Enfin, on va pas trop épiloguer sur le sujet.
Ok, d'accord.
C'est pas encore d'actualité, on verra par la suite.
On n'aura pas l'exclus ce soir. Benny Prism demande, est-ce que le fait que la marque porte ton nom, c'était une évidence pour toi?
Oui.
Ok.
Oui, en fait, bon, par contre, c'est vrai que j'avais jamais eu cette question auparavant, mais il n'y avait pas d'hésitation, en fait. C'était moi. En fait, okay. C'est moi, donc that's my name.
Il y a All Around Jade qui dit, il me fait tellement penser à Olivier Rousteing, je ne sais pas si c'est cliché ce que je dis.
Oh, j'ai déjà beaucoup entendu ça.
Et elle demande également, ça lui fait pas peur de prendre des investisseurs parce que ça rajoute une pression quand même, étant donné qu'ils attendent un retour sur investissement.
Ça ne me fait pas peur. Après, c'est sûr que ça sera une nouvelle expérience qui va se faire certainement, et j'espère, dans un futur très proche. Mais après, il faut dire que moi, j'ai confiance en mon produit, entre guillemets. J'aime pas trop utiliser ce mot, mais j'ai confiance en ce que je fais, en mon travail. Et je parle de produit parce qu'on parle aussi de choses qui vont se vendre. Parce que bon, là, on parle de retour sur investissement, on parle d'argent, monétiser des choses. Donc après, moi, j'ai confiance en ce que je fais. Je sais que ça va le faire. Et de toute façon, j'ai eu tellement de retours. Il y a tellement de gens qui ont envie d'acheter, qui ont cette envie en fait de dépenser leur argent dans mes vêtements et dans mon concept, que finalement en fait il n'y a pas d'incitation, et non, j'ai pas peur. Donc évidemment, ça sera assez nouveau pour moi, mais non, je suis confiant
en ce que tu partes,
oui,
en ce que tu proposes
et en ce qui peut fonctionner pour
bien.
Et toi, Chris, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais acheter? Est-ce que tu porterais cette robe, par exemple? Mais et vous, dans vrai, le chat, est-ce que vous porteriez cette
robe? En vrai, ça me donne trop envie, hein, parce que moi, enfin, je suis un peu caméléon du style parfois et tout, mais juste, je trouve que, en fait, même si c'est pas, moi, je porte parfois des trucs, je dirais, très classiques, entre guillemets, mais en fait, juste le vêtement, tu peux être quelqu'un d'autre, quoi.
Oui. Donc, et pour moi, ça, c'est une robe classique.
Ouais, et en fait, c'est
genre,
ça aussi,
c'est une robe,
parce que genre, c'est quand même
trop
classique,
en fait.
C'est oui. pas, t'as pas des épaules bouffantes, etc. Et non, et je trouve aussi qu'il y a, enfin, en fait, c'est, il y a beaucoup de choses qui me parlent, pas juste, je pense que, enfin, il y a un effet aussi générationnel, tu vois, je trouve ça hyper beau quand je vois des gens qu'on âge ou proche, tu vois, qui font des choses, et je me dis, mais genre, c'est magnifique. Mais en fait, il y a aussi ce truc de, bah, ouais, en fait, la mode, c'est un truc qui vit. Et qu'on porte, tu vois, genre qu'on porte et peut-être qu'on a envie d'acheter, de voir,
c'est ce qui
et ouais.
C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai l'impulsion du départ pour préparer la collection et tout, mais après la finalité c'est vraiment de pouvoir voir quelqu'un marcher, déambuler dans une création, enfin c'est énorme.
Je me vois tout à fait prendre le métro dans cette robe.
C'est parti.
Et puis c'est aussi quelque chose qu'on peut porter aussi en haut avec un pantalon en dessous. Enfin bon,
c'est vrai.
Il y a plusieurs possibilités aussi. C'est ce qui est bien avec les vêtements, c'est qu'on peut vraiment jouer en fait avec.
Les mixer à sa sauce. Est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir dans la mode depuis la Martinique sans venir à Paris?
Alors pour moi, non, je ne pense pas en fait. Moi, je pense pas du tout, parce que déjà en Martinique, pour l'instant, en tout cas vraiment pour l'instant, on n'a pas encore en fait d'école de mode, en tout cas spécialisée vraiment dans ce domaine. On a en fait des formations évidemment, hein, couture, mode et tout ça. Mais je pense pas que ce sont des formations qui sont non plus développées au niveau auquel on peut le trouver ici. Donc évidemment, pour moi, c'était tout à fait logique, et je savais depuis déjà très longtemps qu'il aurait fallu que je parte pour pouvoir faire cette formation. Mais ça a été mon cas. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'une école, de toute façon, ne fait pas tout et ne fait surtout pas le designer. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai eu cette chance de faire une grande école, mais il faut pas oublier que c'est quelque chose quand même qui reste assez élitiste, et que si on n'a pas les moyens de le faire, en tout cas, on la fait pas, et c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'écoles qui sont un peu plus à la portée de tout le monde, et qu'on peut faire et qui sont très bien. On a une formation qui est très bien, qui est très développée et tout ça, mais l'école ne fait vraiment pas tout. Et encore plus aujourd'hui, je ne dirais même pas qu'une école de mode, c'est forcément un chemin obligatoire à prendre. Il y a plein de personnes qui sont hyper créatifs, qui deviennent directeurs artistiques, ou qui sont stylistes, ou qui ont une marque, et sans pour autant en fait faire forcément une école.
Oui.
Donc en fin de compte, moi ce que je dis, c'est vraiment, c'est sûr qu'il faut avoir une connaissance du vêtement, il faut avoir un parti pris style, proposer quelque chose de différent, de personnel, si on a en tout cas envie de monter en fait une marque et d'espérer par la suite intégrer une maison. Mais le cheminement école n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Parce que c'est vrai que moi au début, je me disais que l'école pour moi c'était aussi une espèce de sécurité en fait, d'être dans un cadre scolaire.
Oui.
Et de dire qu'en fait...
Tu vas pas être tout seul, quoi. Ouais. Va t'apprendre.
Et par la suite, j'ai voulu faire un master après cette école-là, et en me disant ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, non. Et puis, je sens qu'en fait, j'ai envie de prendre cet envol, vraiment cette envie de se lancer. Je suis pas déçu. Après, c'est sûr que c'est un process qui est très long.
Oui.
Quand on n'est pas milliardaire, mais...
vous inquiétez pas, tout va bien. C'est attendez, pour vous expliquer, dans le chat, il y a la télévision du retour image qui vient de s'éteindre.
On va plus voir.
Parce que je ne trouve plus la télécommande de la télévision, car il y a trop de télécommandes dans ce studio.
C'est très bien, de toute façon, ça continue.
Mais ça continue, okay. Évidemment.
On se regardera là-bas.
Je ne
sais pas si je vous dis le nombre de personnes dans le chat ou pas.
Ah, il y en a combien?
300.
Wow. Ah, il y a plein de gens. Bonjour.
Ouais, c'est cool. Bonsoir. Si vous avez des questions, on est là, on y répond.
Waouh.
Il y a Isoc qui vient d'ajouter l'école, c'est le réseau, donc c'est un boost de départ assez important, effectivement. Et ce que j'allais te dire aussi, c'est... Enfin oui, voilà, ça m'amène à ma dernière question. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune designer qui voudrait suivre tes pas ou se lancer justement, faire sa marque?
Ah ben, déjà, je lui dirais qu'il faut être passionné, mais ça, on prend pas à l'être, qu'il faut que ça soit là depuis le départ. Passionné... Enfin, aussi apprendre à dire non, savoir bien s'entourer surtout, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident d'avoir un entourage qui soit sain et bienveillant, ce qui est mon cas et je suis vraiment très content encore une fois, mais il faut vraiment savoir bien s'entourer, proposer quelque chose de différent en fait, de personnel, ne surtout pas s'inspirer de mode actuel parce que ça n'a aucun sens de faire ça. Donc c'est-à-dire que même en termes en fait de recherche, des fois les trucs un peu de Pinterest et tout, va falloir faut vraiment chercher plus loin que ça, musée, exposition, vernissage, tout est source de tout peut être source d'inspiration, mais vraiment tout en fait.
D'accord, OK.
Donc
s'inspirer partout.
Oui, et puis être curieux, poser des questions, aller chercher, ne pas avoir peur, toucher en fait, pour aussi éduquer en fait sa main, son toucher, son œil, parce que l'école c'était aussi ça. Donc évidemment qu'une école c'est importante, mais il faut savoir que ça dépend dans quelle énergie aussi vous venez dans une école, parce qu'il y a plein de gens qui viennent dans des très grandes écoles de mode et qui font pas long feu en fait, qui partent au bout d'un an ou d'un deux ans parce que en fait finalement le rythme est trop accéléré, c'est pas ce qu'ils recherchaient. Donc en fait je veux dire que en fait c'est nous. C'est la personne. Et puis, qu'est-ce qui va être ajouté à cette personne, à cet univers, pour que ça puisse rendre quelque chose de réellement concret et de valorisant, en fait, pour cette personne, en tout cas. Donc, c'est pour ça que quand je dis que l'école ne fait pas tout, c'est dans ce sens. C'est-à-dire que moi, j'étais là à 8000 km de chez moi. J'avais comme devoir de devoir donner le meilleur de moi et jusqu'à aujourd'hui. Et je suis venu à Paris uniquement pour ça, en fait. C'est-à-dire que c'était une école pour moi qui était rêvée. Je pensais même pas la faire un jour parce que je voyais des fois des reportages à la télé à l'époque et je me disais, mais wow, genre le niveau est haut, mais moi, je vais faire ça et tout.
Bah, justement, en parlant d'école.
Je l'ai fait.
Bah, bravo, bravo.
Et j'ai survi. Enfin, j'ai survécu.
ouais, c'est vraiment le terme.
Et c'est que le début. Donc, on te souhaite une longue carrière.
C'est vrai que c'est une école qui ne. C'est bien parce qu'elle nous a pas, en fait, laissé penser des choses qui étaient fausses ou nous donner une mauvaise. Une image qui n'était pas réelle. En fait, on était vraiment là à apprendre durement ce qu'il fallait apprendre et c'était comme ça. S'il fallait défaire 10 fois et la refaire et défaire, s'il le faut, on le faisait. Et c'est la ça chambre. Qui est bien. En fait, ça éduque l'œil, en fait, à reconnaître les défauts, à apprendre à avoir un rendu, à apprendre aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et cette école m'a aussi permis de pouvoir m'affirmer. C'est-à-dire que je suis venu dans l'école, j'avais déjà effectivement un univers en tête et tout, mais qui s'est peaufiné, qui a évolué et qui évolue un peu chaque jour. Mais ça aide pour la confiance en soi aussi et c'est cool.
Et c'est formateur, le but de l'école.
Formation très très riche.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.